Et si nous redevenions humains? Sophie vous invite à questionner vos croyances pour aller plus loin dans votre quête de conscience au service du vivant. Ce podcast est fait pour encourager les chercheuses et les chercheurs en humanité, leur donner des clés issues de l'expérience concrète de Sophie dans les domaines de la parentalité, des collectifs et de l'accompagnement de l'enfant. Bonne écoute!
Bonjour!
Bonjour!
Alors, il y a un auditeur qui nous pose une question et qui demande quelle est la différence entre le terme « rôle » que l'on utilise beaucoup dans la gouvernance dynamique et le terme « fonction » qui est davantage connu dans le management habituel.
Alors, il y a aussi, on pourrait parler de « poste », parce que c'est souvent le mot « poste » aussi qui revient. Donc, en fait, c'est vraiment... une notion super importante parce que dans fonction ou poste, qui sont des termes traditionnels, c'est quelque chose qui reste relativement figé, c'est-à-dire que c'est un intitulé, quelque chose qui tient sur un contrat de travail en deux ou trois lignes et qui donne un peu l'essentiel de ce qu'on attend de la personne qui va signer le contrat. Seulement, en fait, on s'aperçoit que, et c'est un des grands apports de l'holacratie notamment et de la gouvernance dynamique aussi, c'est de se dire, non mais c'est pas possible de se retrouver à faire mille et une choses qui ne sont pas écrites dans mon contrat en fait. Parce que dans mon contrat, c'est vraiment une espèce de générique, et d'ailleurs moi j'encourage toujours les gens qui sont des employeurs à mettre la chose la plus évasive dans le contrat. C'est-à-dire vraiment quelque chose qui est une espèce de chapeau, qui serait on va dire la raison d'être d'un rôle, mais de pas détailler les redevabilités. Parce qu'en fait, un rôle, c'est trois dimensions. Et c'est peut-être là où il faut vraiment être précis, qui n'a rien à voir avec la fonction pour le coup. C'est complètement différent.
Alors, juste avant de détailler ces trois dimensions, moi, ce que cette question m'a évoqué, c'est déjà juste la couleur des mots et la sensation des mots, qui sont effectivement des mots qui sont très utilisés dans la pratique conventionnelle du travail. Une fonction, c'est un mot qu'on utilise aussi pour les machines. On fonctionne, c'est on-off, ça marche pas. Il y a quelque chose d'assez automatique dans l'idée de fonction. Alors qu'un rôle, moi, tout de suite, ça m'a évoqué beaucoup plus une dimension créative, comme au théâtre, comme au cinéma, comme un rôle qui peut avoir plein de variables. Et c'est intéressant parce que c'est exactement ça qui se joue au niveau de la gouvernance dynamique. Et puis toi, tu parles de poste, et être posté, c'est pareil, il y a une notion d'immobilité dans le poste, celui qui est figé, qui surveille, qui reste à son poste. Donc il y a une dimension de territoire étroit et réduit. Alors qu'en gouvernance dynamique, on va plutôt justement évoquer les fiches de rôle et on va abandonner ce vocabulaire connu, tel que fonction ou poste, qui utilise un champ sémantique finalement qui est très relié à la machine et très relié aussi au cadre limitant de l'exercice d'une profession.
Ben disons que oui, ce que tu évoques là résonne bien dans la mesure où un poste, on va chercher à changer de poste pour gravir les échelons dans la vision conventionnelle des choses. C'est-à-dire qu'on est à un poste et on se sent effectivement dans quelque chose qui est assez figé. Alors que la notion de rôle est complètement... éclate en fait tout ce système-là, tous ces carcans. Pour faire simple, un rôle, en comparaison d'un poste, qui est un intitulé, encore une fois, ça va être vraiment une raison d'être. Donc en fait, on peut dire que le poste, on pourrait l'assimiler à la dimension raison d'être du rôle. Voilà. C'est-à-dire qu'un rôle, c'est une mission, et qu'à ce titre-là, les termes de la mission peuvent être repris dans les termes du poste. Ça, moi, ça me paraît assez cohérent. Admettons, par exemple, pour un rôle, un poste, on va dire communication, par exemple. Voilà, gérer tous les aspects qui sont liés à la communication de l'entreprise. Bon, voilà. Ben ça, c'est effectivement l'intitulé de la mission qu'on va avoir dans la fiche de rôle. La fiche de rôle, la mission du rôle communication, ça va être aussi gérer l'ensemble des éléments pour que l'entreprise communique du mieux possible sur sa marque, ce qu'elle fait, ses produits, etc. Et donc, en fait, ça, on va dire, c'est la même chose. Sauf que dans la fiche de rôle, ça, c'est juste la mission. Voilà. Et après, derrière, on a, et c'est là où ça devient vraiment très vivant et très dynamique, c'est que derrière, on a non seulement un périmètre, c'est-à-dire un endroit, un domaine qui est rattaché au rôle, c'est-à-dire qu'un endroit où il y a de l'autorité, un endroit où il y a du contrôle même, un endroit où il y a de la, une forme de propriété. C'est-à-dire que la personne qui exerce le rôle communication, on va en préciser les contours. Où est-ce qu'elle a de l'autorité sur ce rôle-là? Qu'est-ce qu'elle peut faire dans le cadre de l'autonomie qui est liée à son rôle? Et donc, on va pouvoir décliner un petit peu l'ensemble des outils qui sont à sa disposition, dont elle est propriétaire. C'est-à-dire que s'il y a un problème avec l'outil, c'est vers elle qu'on se tourne, parce que c'est son périmètre. Donc ça, c'est vraiment très important aussi comme notion qui n'existe quasiment pas dans les fiches de poste ou les fonctions comme ça. On ne donne pas forcément les contours et des domaines rattachés à la fonction et au poste.
Il y a une sorte de souveraineté dans cette notion de périmètre qui rejoint la notion dont on parlera davantage dans d'autres podcasts sans doute, c'est la notion de leadership coopératif.
Absolument. Et c'est grâce à la précision du périmètre qu'on peut vraiment exercer pleinement son rôle. Donc ça, c'est la deuxième notion qui est liée à la fiche de rôle. Donc on avait la mission d'un côté, le périmètre ensuite, et ce qui est vraiment aussi le mode d'emploi du rôle qui est super, super important, qui permet même de transmettre ces choses-là à des personnes quand elles arrivent, etc., et qui constitue le véritable patrimoine et de l'organisation et du rôle en particulier, ce sont les redevabilités. C'est-à-dire, si je reprends l'exemple du rôle communication, eh bien, elle va avoir un certain nombre de tâches, d'activités à accomplir dans le cadre de l'exercice de son rôle. Donc, ça va être assurer la maintenance du site web, ça va être élaborer des contenus pédagogiques, ça peut être élaborer des contenus sur les réseaux sociaux, enfin, tout ce qui est lié au rôle communication. Et ça, c'est vraiment le mode d'emploi, en fait. C'est-à-dire que les redevabilités, c'est vraiment ce vers quoi le rôle est redevable vis-à-vis de l'organisation. Qu'est-ce qu'elle doit accomplir pour que l'organisation soit en bonne santé dans le cadre du périmètre qui lui est alloué. Et donc, si je reviens sur mon rôle communication, on va savoir que la communication est bien faite, on va savoir que parce qu'il y a quelque chose qui est en bonne santé, qui est fonctionnel. Et s'il y a une tension qui est liée au fait que la communication, ça ne se passe pas bien, alors à ce moment-là, le rôle va pouvoir éventuellement bouger, faire évoluer son périmètre, ou pour potentiellement, par exemple, s'il y a une charge de travail importante. Il y a souvent ça dans les tensions d'évolution des entreprises ou des associations, peu importe, c'est de se dire, ben, la communication, ça commence, par exemple, le site web commence à être trop important, etc., et du coup, le rôle communication n'arrive pas à assurer comme il faut, et ben, peut-être qu'on va recruter une personne dont le rôle va être spécifiquement le site web, et du coup, on va sortir le site web, non pas du rôle communication, mais le rôle communication va devenir, du coup, un espèce de cercle, un cercle en fait dans lequel le périmètre large c'est la communication et à l'intérieur duquel il y a un sous-cercle qui s'appelle site web. Et donc on aura décroché une redevabilité du rôle communication qui au départ était tenue par une seule personne et d'un seul coup il va y avoir deux personnes dans le service communication, dans le cercle communication, dont un qui s'occupe spécifiquement du site web parce que le site web maintenant ça justifie un rôle à temps plein. Voilà, ou même à temps partiel, parce que le temps alloué au rôle n'est pas important. On peut très bien imaginer recruter quelqu'un à temps partiel, mais qu'il ne s'occupe que du site web. Et du coup, on aura un rôle spécifique. Et la mission de ce rôle, ce sera juste assurer la maintenance et la performance du site web de telle association, etc.
Une chose qu'on ne dira jamais assez, c'est que le rôle n'est pas une personne. Et qu'une personne dans l'organisation peut avoir plusieurs rôles. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe la plupart du temps.
En effet, et c'est même quelque chose qu'il faut vraiment aborder dans le cadre d'une évolution de la posture, parce que très souvent, on mélange, en fait, on est très très appelé à mélanger l'ensemble des tâches qui nous incombent quand on est au service d'une organisation, et on n'a même pas conscience qu'on fait énormément de choses qui concernent en fait différents rôles. Et si on veut amener de la clarté, du discernement, notamment quand on veut s'organiser et coopérer de manière très consciente et efficace, pour ne pas aussi empiéter sur les périmètres des uns ou des autres, alors effectivement cette notion de « je ne suis pas mon rôle » est une notion très importante. C'est-à-dire qu'un rôle comme n'importe lequel dans l'entreprise va pouvoir être accompli par plusieurs personnes. Ça, c'est vraiment très important.
Alors, tu disais que lorsqu'un rôle est accompli par plusieurs personnes, ça devient un cercle.
Absolument. C'est-à-dire que la notion de cercle vient, en fait, un cercle est de la même nature qu'un rôle. Sauf qu'un rôle est accompli par une seule personne et qu'un cercle, ça va être aussi un rôle, mais qui contient un périmètre dans lequel il y a plusieurs personnes qui vont agir. Donc ça, c'est vraiment une notion qu'il faut intégrer de manière... Alors, ça bouleverse un peu l'imagination telle qu'elle est dans les rôles justement plus fonctionnels, plus rigides, plus pyramidaux, on va dire. c'est que la gouvernance dite en cercle, elle est vraiment sur le modèle du vivant. Donc, on va se retrouver avec quelque chose qui va émerger, notamment comme une plante qui va faire pousser des choses, qui va faire pousser une nouvelle tige, une nouvelle feuille, etc., au gré de son évolution, au gré de ses capacités, au gré de l'ensoleillement, de la nourriture qu'elle a, etc. Et du coup, effectivement, il y a une émergence comme ça qui se fait au gré des tensions d'évolution. Donc, ce n'est pas quelque chose qui provient d'un ordre qui viendrait de l'extérieur, mais c'est vraiment de l'intérieur qu'on sent qu'il y a quelque chose qui doit évoluer. Et à ce moment-là, on amène une tension et la tension fait émerger. Tu parlais des rôles tout à l'heure comme d'un espèce de jeu aussi, on joue. Et bien oui, dans la gouvernance, il y a une notion assez de ludique, dans le sens où on n'a pas du tout de gêne et de problème à faire évoluer la gouvernance d'une organisation tant que c'est au service de la raison d'être.
Comme un jeu de société, un peu.
Un peu comme un jeu de société, effectivement. Ça veut dire que ben on n'a pas de problème à se dire, ah ben tiens, là, il y a un truc qui va pas. Moi, je l'ai fait il y a encore moins d'une semaine dans une organisation où on se prenait la tête parce qu'il n'y avait pas assez de lien entre tel cercle qui était lié à la pédagogie et tel cercle qui était lié à l'administration, par exemple. C'était vraiment une grosse prise de tête parce que justement, c'était pas assez fluide entre les deux services et que les deux services avaient des polarités super importantes au service de la raison d'être globale. C'était juste qu'ils n'arrivaient pas bien à se parler. Ben, en fait, on s'est dit, ben, c'est quoi le problème? On a ouvert la carte de la gouvernance et on s'est aperçu qu'effectivement, il y avait lieu de créer un cercle transversal, fonctionnel, au service à la fois de l'administration d'un côté et de la pédagogie de l'autre, puisque les deux sont au service de la même raison d'être. Donc en fait, on s'est dit, bon, vous avez une réunion périodique entre personnes de la pédagogie et après, il y a une personne qui est le premier lien du cercle pédagogique qui va se coltiner toutes les redevabilités et les tensions administratives de l'autre côté, alors qu'en fait, il y avait un manque de lien très très précis et notamment un manque d'appropriation de certaines dispositions que l'équipe pédagogique n'arrivait pas à bien accueillir dans la mesure où elle n'était pas comprise dans le pourquoi il devait accomplir certaines formalités, parce qu'aujourd'hui, l'administration, c'est des choses qui sont un peu compliquées des fois. Et donc, le simple fait de dire, bah, tiens, on va créer un cercle transversal entre les différents rôles, on se retrouve avec un espace dans lequel on a supprimé une réunion déjà, parce que la personne, elle devait ramener, remonter des informations à une autre personne qui était déconnectée de la réalité de ce que vivaient les autres, et que du coup, on se retrouve avec quelque chose de très interactif, où là, il y a de l'efficacité parce que les personnes qui doivent accomplir certaines nouvelles redevabilités qui sont liées à un nouveau processus administratif ou autre, elles en comprennent la raison. Parce qu'elles sont en direct, en lien avec le pourquoi il faut faire maintenant de nouvelles choses. Donc ça a énormément détendu finalement l'atmosphère. Et c'est juste en fait une façon de redistribuer les cartes de la gouvernance entre des cercles ou des rôles à l'intérieur des cercles qui permettent de se parler d'une manière complètement différente au service de la raison d'être. Donc on n'a aucun problème à créer un cercle, à en enlever un, à passer une redevabilité à un autre rôle si on s'aperçoit que c'est plus adapté. Donc c'est vraiment une espèce effectivement de jeu de cartes. C'est pour ça que d'ailleurs que la gouvernance est très visuelle et on a des schémas de gouvernance avec des cercles, avec des fiches de rôle. C'est très très, palpable.
Très coloré souvent, très organique. Hein.
C'est ça.
Et dans ce que tu racontes, il y a aussi cette malléabilité, c'est-à-dire que en fonction des tensions, on peut créer des rôles ou en enlever, créer des cercles ou en enlever, faire passer des rôles d'un cercle à l'autre.
Exactement. Et ça, c'est super, super précieux parce que du coup, déjà, ça implique énormément les gens parce qu'ils sont co-créateurs de la solution. C'est-à-dire que moi, à cet endroit-là, c'est pas forcément moi qui ai trouvé cette solution de cercle transversal. C'est qu'en fait, ça a émergé de la tension elle-même qui était exprimée de part et d'autre. Et du coup, je dis, bon, en fait, votre besoin, c'est de vous voir. Ah ben oui, c'est de nous voir, mais on va pas se rajouter une réunion. Non, mais la réunion que vous faites là, qui finalement n'est qu'un préalable à l'accomplissement de tâches qui ensuite sont accomplies de manière à contre-cœur, un petit peu, il vaut mieux fusionner deux réunions en une seule, dans laquelle vous allez avoir l'ensemble des parties prenantes pour vous expliquer. Et du coup, là, vous gagnez en lien, en compréhension, en efficacité. Est-ce que vous êtes OK avec ça? Mais là, tout le monde était super OK.
Ça permet de faire dialoguer et de mettre en présence des services qui, d'ordinaire, ne communiquent
Ne
pas
se parle pas.
ne se parlent pas,
C'est
ne
ça.
communiquent pas directement entre
D'aucuns parlent de la logique de silo. Ils appellent
eux.
ça le silo. C'est-à-dire des gens qui sont dans leur case, dans leur silo, quoi.
Dans leur fonction, pour
Dans
le
leur
coup.
fonction, pour le coup, très très séparés, cloisonnés les uns des autres. Et ça, évidemment, la gouvernance dynamique éclate tout ça parce que c'est pas du tout au service de la raison d'être, de ne pas être concerné, de ne pas être impliqué par ce que font les autres, puisqu'on est tous au service de la même chose au final. Donc c'est pas juste moi, mon petit périmètre qui va bien, qui est en bonne santé, etc. Si je vais bien tout seul et que le reste de l'organisation va mal, à un moment donné, c'est moi qui vais aller mal. Donc c'est complètement contre-productif de ne pas tout de suite susciter de porosité et de transversalité entre les personnes si elles le sollicitent et si l'impact pour servir au mieux leur efficacité est important.
En fait, la gouvernance dynamique, c'est beaucoup remettre du lien et entre les personnes et entre les équipes.
Et du coup, oui, ça rejoint vraiment cette notion que les relations s'améliorent souvent. Les relations au travail vont être souvent bien améliorées parce que on a amélioré la gouvernance. Parce que souvent, on a des tensions interpersonnelles dans les entreprises, les organisations, qui ne sont pas liées aux personnes en tant que telles, parce que si elles étaient dans un contexte favorable, elles s'entendraient plutôt bien. Mais c'est plus parce qu'elles ont des tensions dans leur organisation, parce que justement les périmètres ne sont pas clairs, parce que l'impression de pas être vraiment bien calés les uns avec les autres, et bien ça génère des tensions ensuite interpersonnelles.
Ou le sentiment aussi que les besoins pour exercer son rôle au mieux ne sont pas accessibles et ne sont pas satisfaits parce que on dépend des autres et que si on dépend des autres et qu'on ne peut pas avoir des espaces pour déposer ces tensions, pour soutenir une logique de coopération qui soit opérante, c'est souvent ça dont souffrent les travailleurs, c'est le sentiment d'être à ramer un petit peu seul dans son coin, à essayer d'honorer des attentes sans avoir la possibilité, bien souvent, ou l'espace pour co-créer, être co-créateur avec les autres travailleurs.
C'est ça, c'est vrai que la grande révolution de cette façon de coopérer à l'intérieur d'une organisation, c'est vraiment la gestion par tension. Parce que dès qu'on est capable d'ouvrir des espaces où il y a de la confiance, parce qu'on sait que ce qu'on va poser comme tension, c'est au service de la raison d'être, ça change tout. Du coup, on se retrouve vraiment dans des situations très constructives, même là où il y a des gros problèmes, on va toujours chercher, avec notre créativité, avec la confiance qu'on est capable de rebondir, d'être résilient justement, de tester des choses, parce que dans ce cadre-là, c'est possible. Très souvent, on va même s'accorder sur, par exemple, prendre un risque de tester une solution qui est inédite, qui potentiellement, oui, on ne sait pas trop où on va, mais on se dit, est-ce qu'on est capable de prendre ce risque parce qu'on a quand même l'intuition que ça pourrait marcher? Alors il y a les peurs et tout ça, mais comme on sait qu'on est capable de revenir en arrière, parce que la gouvernance dynamique c'est ça, c'est se dire, ben ok, on essaye un truc, puis si on se laisse 2 semaines, on va voir comment ça marche, et puis si ça marche pas, on revient dessus. Il n'y a pas vraiment de frein à l'innovation. Tant qu'il y a suffisamment de personnes, et qu'il n'y a pas surtout pas d'arguments qui viennent contredire une intuition, par exemple. C'est-à-dire que des fois on se dit non, ça c'est pas possible parce que la loi, parce que ci, parce que ça, et là on voit très bien, ah, il y a une objection qui est incontournable. Et on se dit, ah bah oui, ça aurait été une connerie de le faire, d'accord. Mais des fois, c'est pas le cas. Des fois, c'est, ah, on l'a jamais essayé, c'est vrai, ah ouais, il y a quand même un risque, mais est-ce que ce risque il est prédictif ou est-ce qu'il est avéré, est-ce qu'il est connu? Et là, des fois, on va s'apercevoir que c'est juste parce qu'on l'a jamais fait, donc du coup, on a un peu peur et tout. Mais il y a rien qui l'empêcherait vraiment. Et donc à cet endroit-là, la gouvernance dynamique permet ça. Si vraiment les responsables en place se disent, allez, on tente le coup et on se laisse, voilà, 2 semaines, 1 mois, et on fait le point pour voir ce que ça a donné. Et bien là, typiquement, la gouvernance dynamique permet ce genre d'initiative.
Ce que tu es en train de décrire, c'est un phénomène une capacité de résilience. En fait, c'est un système qui est résilient. Donc.
Oui, et qui surtout avance les yeux grands ouverts. C'est-à-dire que si vraiment il y a un risque, on le nomme, on sait où il est. Et on se dit, ok, on choisit de courir ce risque parce qu'on a le sentiment que peut-être derrière, il y a une plus-value qui va être beaucoup plus importante et nous rendre bien meilleurs parce que peut-être le risque qu'on a identifié, il n'est peut-être pas si important que ça.
Et c'est peut-être aussi à cet endroit-là qu'il y a une capacité à accueillir l'imprévu. Parce que cette souplesse, cette malléabilité de l'organisation permet aussi de réorganiser assez rapidement, de manière assez consensuelle et en fonction de facteurs extérieurs qui pourraient arriver sur l'entreprise, par exemple.
Ben ça, c'est évident. À chaque fois que j'accompagne un groupe, que ce soit dans l'entreprise ou l'associatif, moi, je vois vraiment les pas et les évolutions. Alors, ça prend du temps. Parce que justement, cette notion de périmètre, par exemple, on travaille souvent dans le milieu associatif avec des associations dont le conseil d'administration est souvent très présent dans les équipes opérationnelles. Et du coup, on ne sait pas trop où est Où est la frontière entre un CA tout-puissant, puisque le CA, c'est lui quand même qui a les clés de la maison, hein, au niveau juridique, au niveau de la responsabilité pénale, au niveau souvent du budget, il y a le trésorier, tout ça. Sauf que des fois, ça vient entraver la dynamique, par exemple, si on a des équipes salariées derrière. Donc il y a des associations qui ont résolu le problème en finalement en confondant les deux, mais potentiellement, ce n'est pas des associations qui peuvent avoir des grandes tailles. Parce que dès qu'on a des tailles un peu significatives, la séparation, elle doit se faire d'une manière objective.
Tu veux dire entre le décisionnel et l'opérationnel,
Oui,
c'est
c'est
ça?
ça. C'est-à-dire que quand on a une petite équipe associative, ça marche. Parce que bon, les gens, ils sont à la fois dans le CA et en même temps, ils sont opérationnels. Et la plupart du temps, ils sont bénévoles. Donc, il n'y a pas d'enjeu de collusion d'intérêts, de choses comme ça. Mais dès qu'on commence à avoir des assos avec vraiment 7, 8, 10, 15 salariés. Alors attention, parce que le conseil d'administration, à cet endroit-là, il doit travailler sur sa gouvernance. Et il doit vraiment faire le tri entre ce qui relève de sa responsabilité et de laisser de l'autonomie, dans les cadres des périmètres dont j'ai parlé, qui sont liés au rôle, hein, justement, de savoir quel est le périmètre opérationnel dans lequel le CA ne rentre pas. Parce que c'est juste pas le sien. C'est pas son périmètre, c'est pas son domaine. Lui, il va être dans certains périmètres que l'équipe opérationnelle n'aura pas, et inversement. Et ça, moi, j'observe avec beaucoup de joie de voir des associations que j'accompagne qui font ce travail-là, c'est-à-dire qu'au début, ben, j'arrive souvent, c'est un CA qui m'a recruté pour accompagner parce qu'il voit bien qu'il y a des tensions d'évolution qu'ils n'arrivent pas à maîtriser. On en arrive à l'enjeu qui est bien faire le tri entre les rôles, les périmètres, etc., qui commence à prendre sens. Et au bout de quelques mois, quelques années, les gens reviennent vers moi et me disent, bon, ben, ça y est, là on est mûr, et maintenant il faut vraiment qu'on travaille sur qu'est-ce qui est du périmètre du CA, qu'est-ce qui est du périmètre de l'équipe opérationnelle, par exemple. Parce qu'eux, ils ont déjà élu un premier lien, parce qu'ils ont fait tout ce travail qu'on a commencé à faire en formation de gouvernance dynamique, mais que, bah oui, il y a un cap d'appropriation de ça, de cette culture-là, et de maturité. Et là, moi, je vois bien que j'ai beaucoup de joie quand, voilà, je reçois un mail ou un coup de fil qui me dit, bah, Laurent, on aurait besoin de toi, parce que ça y est, on est prêt à vraiment séparer le CA de l'équipe opérationnelle, et on aimerait bien que tu nous accompagnes pour vraiment qu'on fasse le tri ensemble. De ce qui reste du périmètre, de quel périmètre, etc. Parce que ces notions-là sont vécues.
Alors peut-être la notion de périmètre, si on la détaille, est-ce qu'on pourrait comparer ça à un jardin, par exemple, avec différentes plates-bandes, et moi je m'occupe des tomates, donc la plate-bande des tomates, c'est mon périmètre.
Bien sûr.
Mais mes tomates, elles vont profiter à l'ensemble de la communauté, où tu peux venir
Mais c'est
même...
tes tomates, c'est toi qui as la responsabilité qu'elles soient en bonne santé, qu'elles soient productives, et qu'à la fin, on ait des tomates.
C'est ça.
Effectivement.
Et puis c'est complémentaire avec la plate-bande de courgettes qui est à côté, mais c'est plus mon périmètre, c'est le
Exactement.
périmètre du rôle voisin
Sauf
ou du
que
cercle
tout le
voisin.
monde doit se parler parce qu'effectivement, au final, il y a quand même un grand jardin. Donc il y a le jardin où il y a dedans, il y a des tomates, il y a des aubergines, il y a tout ce que tu veux. Et on peut affecter un rôle par espèce de plante, effectivement. Mais il n'empêche qu'il y a toute une organisation et une coordination du jardin dans son ensemble. Parce que les tomates toutes seules, elles vont avoir besoin d'un certain type d'ensoleillement qui ne correspond pas aux besoins des aubergines ou des autres plantes. Et du coup, tout ça doit se parler. Donc oui, le périmètre, c'est une bonne image. C'est vraiment, je m'occupe de ce domaine-là. Et ça, des fois, enfin des fois, la plupart du temps même, quand on arrive dans une organisation, les périmètres ne sont pas si clairs que ça. C'est-à-dire qu'on s'occupe un bout des tomates, et puis un bout des aubergines, et puis un bout du compost, et puis un bout de ci, un bout de ça. Chacun un petit peu à la bonne franquette, là. Et en fait, c'est souvent ça qui crée des problèmes et des troubles dans la relation après humaine, et c'est même plus de l'organisation, c'est dans la relation humaine. Donc le fait de faire le tri, de faire le ménage là-dedans, de rendre tout ça explicite grâce au support de la gouvernance dynamique et à toutes ces nomenclatures qui sont liées aux fiches de rôle, aux missions, aux périmètres, aux redevabilités, tout ce qu'on a dit là, ah, ça amène du support, ça amène un socle à partir duquel on peut jouer vraiment ensemble avec les mêmes règles du jeu. Parce qu'on a la certitude qu'on peut faire évoluer ces règles du jeu, et qu'en même temps, jusqu'à plus ample informé, jusqu'à preuve du contraire, les règles du jeu, elles sont celles-là à l'instant T.
Alors, une fiche de rôle, un rôle est explicite. Comment on fait pour que cet explicite, lorsqu'on le décrit dans une fiche de rôle, ne devienne pas quelque chose de figé, justement, et
Ah bah
de sclérosant?
en fait, il est figé tant qu'il n'y a pas de tension d'évolution. C'est-à-dire que la fiche de rôle, c'est celle qui fait loi. Dès qu'elle a été adoptée à zéro objection, c'est ce qu'on doit accomplir en tant que rôle. Point barre. Et là, c'est figé, entre guillemets. Sauf que, dès qu'il y a une tension d'évolution, dès que même la personne qui exerce son rôle se dit, ah, ben là, moi, dans ma fiche de rôle, il y a marqué qu'il faut que je fasse comme ça, mais en fait, il y a un nouveau truc qui vient de sortir, et puis je m'aperçois que c'est beaucoup plus facile si je fais comme ça, ben, il n'y a aucun problème, en fait. Déjà, elle peut le faire si elle est sûre que ça va marcher mieux, et puis à un moment donné, même pour information, elle va dire, bah, vous savez, mes redevabilités, je dois accomplir telle tâche, maintenant je le fais de cette manière-là. Et elle n'a même pas forcément besoin de demander l'autorisation. Elle informe les gens que maintenant, la façon qu'elle a d'accomplir une redevabilité, elle a changé. Et c'est là où ça devient super intéressant, c'est que du coup, ta fiche de rôle, bah, elle évolue au fur et à mesure de tes pratiques. Et tu peux faire confiance à la personne qui est premier lien, qui est responsable de l'organisation ou de ton cercle, si elle voit que l'initiative que tu as prise, qui pour toi est meilleure, elle pose un problème que tu n'avais pas vu, bah, elle posera sa attention. Elle dira, ah bah oui, tu faisais comme ça, ah bah oui, je vois bien, c'est bien, mais en fait, quand tu fais ça, je sais pas, moi, si c'est informatique, tu ne respectes pas la loi RGPD ou je sais pas quoi, des trucs, c'est vachement plus pratique, mais en fait, on n'a pas le droit maintenant, on est soumis à des choses que tu ne savais pas, donc je suis désolé, on va pas pouvoir le faire. Ah bon, c'est vrai, ben ok, donc le rôle, il a informé qu'il faisait autrement, parce que c'est très important que l'information circule, et ben, soit il n'y a aucune tension, et c'est super, merci beaucoup, et du coup, on va modifier la fiche de rôle en conséquence, donc on va l'ouvrir. Et on va la modifier, puisque c'est
alors,
un document.
Qui modifie la fiche de rôle
là, c'est dans les réunions de gouvernance qu'on fait ça très simplement. On ouvre le support qui est dédié, hein, qui existe, parce que justement la gouvernance dynamique prévoit un support dédié pour ça, pour chacun des rôles de l'organisation, avec un schéma et tout ça. Et du coup, bah, on ouvre, donc c'est un site intranet, hein, c'est un site interne à l'organisation, que j'installe à chaque fois sur mesure. Et on va ouvrir la fiche de rôle correspondante, et on va supprimer une ligne, ajouter un process, une politique, parce qu'un rôle peut être... colorées de plein de dispositions spécifiques. Tant qu'elles sont au service de l'organisation et qu'elles viennent préciser les contours de pourquoi elle fait les choses, c'est juste génial. Parce qu'en plus, tout ce qui est écrit à cet endroit-là, c'est du patrimoine pour l'organisation. C'est-à-dire que la personne, justement, tu l'as dit tout à l'heure, une personne n'est pas un rôle, mais ça veut dire que la personne, elle peut disparaître, dans le sens où, bah, ça y est, elle tombe amoureuse d'une Québécoise et puis elle va s'envoler au Québec, et puis bah, toi, tu te retrouves, tu n'as plus de salarié qui exerce un rôle super important. Peut-être que la personne est partie, mais toi, tu as sa fiche de rôle. Et sa fiche de rôle, dedans, il y a toute l'encyclopédie de ce qu'elle doit accomplir toute la journée. Avec potentiellement même son réseau, avec des fournisseurs, avec plein de choses. Une fiche de rôle, ça peut être extrêmement étoffé. Moi, j'ai vu des fiches de rôle, par exemple, des rôles comptables dans une grosse holding, mais elles avaient détaillé ça, il y en avait des pages. Parce qu'elles tenaient à ce que les procédures de saisie, de machin, sur les logiciels et les machins soient hyper précis. Parce qu'elles savaient que derrière, si elles n'étaient pas là, il y avait quelqu'un qui pouvait s'appuyer sur la fiche de rôle pour continuer d'exercer la fonction. Donc c'est super précieux.
Donc la fiche de rôle va reprendre le titre du rôle, voilà. Sa mission.
Et alors quand je dis la fonction, voilà, c'est la mission. Hein,
son générique. Périmètre.
C'est ça.
Et va lister ses redevabilités.
Exactement.
Et éventuellement des ressources.
Mais ça peut être, dans les redevabilités, il y a des process qui sont liés à des redevabilités. Il peut y avoir des politiques aussi qui sont attachées justement à certaines redevabilités. Ben là, tu vas faire comme ça, mais avec le soin que chez nous, on a une politique qui est liée à l'accueil du personnel, par exemple. On a une politique, donc il faut que tu respectes. Et du coup, ce qui est super intéressant, c'est que dans la fiche de rôle, comme c'est numérique, on a des liens hypertextes. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de nommer toute la politique. On a juste un lien qui dit, voilà, telle redevabilité doit être accomplie selon telle procédure, avec un lien hypertexte qui renvoie vers la procédure, ou telle politique qui renvoie vers la politique.
Ou en concertation avec tel autre rôle.
Avec tel autre rôle, et pareil, tel autre rôle, on a un lien hypertexte qui renvoie vers la fiche de rôle, voire même le trombinoscope, puisqu'on a ça dans notre serveur, qui permet à chaque fois de savoir qui fait quoi. Donc même si c'est une grosse entreprise, tu cliques sur le rôle que tu veux, dont tu veux savoir quelles sont les personnes qui l'exercent, et tu as tout de suite leur trombine quoi, qui apparaît sur l'écran. Comme ça, tu es vraiment fluide dans l'exercice de la gouvernance, parce que la gouvernance, il peut y avoir un côté encyclopédique assez ardu si on commence à trop détailler. Donc, il y a toujours un équilibre à trouver entre vraiment les choses les plus importantes à dire et les choses qui relèvent vraiment de détails qu'on ne va pas écrire, parce que sinon, après, ça devient infernal. Donc, il faut vraiment trouver la bonne mesure pour que ça reste efficace.
Dans mes dernières années à la ferme des enfants, j'avais compté mes rôles et je pouvais en avoir entre 15 et 20. Donc ça veut dire qu'un rôle et une fiche de rôle, ce n'est pas forcément relié à une activité à plein temps, par exemple. Mais ça peut être... Il peut y avoir des rôles qui prennent un quart d'heure par semaine ou qui opèrent seulement de manière ponctuelle.
Absolument. Et ça, c'est vraiment une grande différence. Tu fais bien de le souligner. Parce que c'est vraiment la grande, grande, grande différence avec les visions traditionnelles, hein, très 20e siècle de l'entreprise et de l'organisation, c'est qu'effectivement, un rôle, c'est vraiment quelque chose qui est étranger aux personnes. C'est quelque chose qu'on a identifié comme étant une activité, une mission à accomplir au service de l'ensemble, qui est complètement détaché des personnes. Donc, comme tu le dis très justement, moi, j'avais des rôles, je me souviens effectivement dans l'éco-village, et même encore aujourd'hui, de vidanger la bennette ou des trucs comme ça. Rôle vidange bennette, ça me prend peut-être 2 heures par mois, mais c'est un vrai rôle, parce que cette bennette, si elle n'est pas vidangée en temps et en heure, ça met un bazar pas possible. Donc voilà, un rôle, c'est typiquement quelque chose qu'il faut accomplir, mais en termes de temporalité, de temps consacré, etc., ça peut être extrêmement variable.
Oui, tout à fait. Moi, je me rappelle par exemple du rôle pharmacie, qui est celui qui est chargé de contrôler régulièrement qu'il y a tout ce qu'il faut dans toutes les pharmacies du lieu, ou voilà, des rôles qui sont... un rôle médiation, par exemple, qui va n'intervenir qu'en cas de conflit. Même ça peut être voilà, très très ponctuel, où tout d'un coup ce rôle va être très sollicité et pendant des mois il va plus être sollicité du tout. Donc il y a cette flexibilité aussi du rôle, de la notion de rôle dans le temps et l'action.
Tout à fait. Voilà, bah je crois qu'on est bien. En tout cas, j'espère qu'on a fait le tour.
Oui,
Il me semble que
il y
ça
aura
va.
Un document dans les ressources qui s'appelle Écrire sa fiche de rôle.
Oui, on va vous transmettre toujours pareil dans les ressources. Au fur et à mesure des podcasts, on transmet des contenus qui sont justement les contenus qu'on utilise nous au quotidien quand on accompagne les organisations. Donc on mettra ça dans les ressources.
Tout en ayant conscience que c'est pas facile d'appliquer la gouvernance dynamique juste à partir de ce qu'on vous dit là, parce que c'est un ensemble de pratiques qui sont complexes et qui demandent voilà, une compréhension générale et une mise en œuvre qui nécessite un accompagnement. Mais en tout cas, pour tous ceux qui sont déjà initiés ou qui ont déjà commencé à aborder ces sujets dans leur organisation, ça peut soutenir ce que vous avez à y faire aujourd'hui.
Oui, puis ça donne à voir ce à quoi ça ressemble. Donc après, c'est les premiers pas, voilà, pour initier tout ça.
Merci pour votre écoute et puis à très bientôt pour un nouvel épisode.
Merci, à bientôt.